Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La santé gynécologique, c'est un enjeu majeur de santé publique. Prévenir, dépister, traiter, prendre en charge les événements, troubles et pathologies liés à la vie sexuelle et reproductive. Et pour cela, prendre conscience de l'importance d'un suivi régulier, se débarrasser d'un certain nombre de craintes ou de préjugés sur cette spécialité. Et en premier lieu, en ce qui concerne le déroulement des consultations, l'anatomie féminine reste encore aujourd'hui entourée d'un certain nombre d'a priori, de méconnaissances, des idées reçues, d'actes préjudiciables pour la santé physique et mentale, des fausses croyances liées à des tabous persistants, à l'appropriation du corps féminin par d'autres et dans certaines régions, des mutilations perpétrées au nom de la tradition. Et pour éclairer les femmes sur leur corps et son fonctionnement, les informer des questions qui peuvent rester sans réponse, les gynécologues sont les spécialistes capables de leur permettre de se réapproprier cette compréhension par le biais de l'écoute et du savoir-faire. Une spécialité aussi indispensable que bienveillante pour faciliter ces soins de l'intime qui peuvent avoir des répercussions sur l'épanouissement des femmes, leur santé bien sûr, mais aussi la sécurité des mères, des enfants à naître et l'harmonie des couples. Et dans ce que je viens de dire, eh bien, je vous ai emprunté un certain nombre de mots, un certain nombre de choses. Docteur Marie-Laure Brival, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, chef de service à la maternité des Lilas en région parisienne. Ces mots qui sont notamment issus de votre livre intitulé « Mon guide gynéco pour les nuls ». On va le voir pas seulement pour les nuls, publié aux éditions First. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de la République démocratique du Congo le docteur Joseph Kangoudiambaya, gynécologue, obstétricien, directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine à Kinshasa. Pour poser vos questions, la page Facebook de Priorité Santé, bien sûr notre numéro de téléphone, le 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, vous retrouverez le bulletin de santé avec cette semaine à la une le début de la vaccination en RDC contre le virus Ebola, vaccin expérimental, campagne ciblée notamment dans la grande ville de Mbandaka. Et puis aux États-Unis, le Congrès américain qui approuve une loi controversée. Elle permet aux malades en phase terminale d'essayer des traitements expérimentaux non autorisés.
Priorité santé sur RFI.
Et vous le dites, ce guide gynécologique qui ne remplace pas une consultation, docteur Marie-Laure Brival, des mots simples, expliquez pourquoi donc il est si important pour une femme, assez tôt d'ailleurs dans sa vie de femme, de consulter un gynécologue. C'est quoi la différence entre aller voir un médecin, on va dire un généraliste, et une gynécologue?
Je crois que il est extrêmement important de faire cette différence. Je crois que le médecin généraliste a des compétences tellement multiples dans divers domaines de la santé des humains en général, pas seulement les femmes. Et cette spécificité de la gynécologie est extrêmement importante à mettre en exergue dans la mesure où c'est vraiment une médecine dédiée à la femme, dédiée à la prévention, dédiée à la santé globale des femmes, et à l'écoute des femmes. Et je crois que ça a déjà été une grosse perte, la difficulté d'accéder aux gynécologues médicaux en France, puisque, et en Europe, bien que cette spécialité perdure en France, et actuellement nous n'avons plus que des gynécologues obstétriciens qui ont encore un plus large éventail d'approches. Mais je crois qu'il est important que chaque femme puisse avoir un de ces spécialistes. Vous savez peut-être, en tout cas en France, les sages-femmes aussi peuvent accéder à ces consultations pour les femmes. Et donc, d'avoir un lieu d'écoute particulier et de prise en charge de cette santé si intime me paraît complètement essentiel et ça ne s'invente pas, l'approche.
Parce qu'une femme, peut-être aussi, quand elle va chez son généraliste, elle va vouloir parler dans son esprit de ce qui est entre guillemets plus grave et mettre entre parenthèses ces questions qui sont pourtant fondamentales.
Tout à fait, tout à fait. C'est, je crois que la base, c'est cette de la relation dans ce type de consultation, c'est le partage du savoir. Je crois que il y a à expliquer, à partager avec les femmes de ce qu'elles sont, de leur anatomie, de leur fonctionnement, et bien des petits troubles peuvent être parfaitement gérée par elle, sans passer par un médecin forcément.
Alors une autre question de départ, on va dire, docteur Marie-Laure Brival, quand est-ce qu'il faut consulter, à quelle fréquence, quand aller voir son gynécologue?
Je crois que il est après être 25 ans, je pense qu'une femme devrait avoir accès à une consultation spécifique de type gynécologie dès l'âge de 25 ans et tous les ans ou tous les deux ans. Avant, cette consultation est indiqué sur des symptômes, il n'y a pas de systématisme, il n'y a pas un âge où on démarre une consultation gynécologique. Il y a des signes d'appel, des raisons pour lesquelles on va consulter un gynéco plus tôt que 25 ans, mais à partir de 25 ans, il me semble licite de dire que la consultation préventive doit être régulière tous les ans ou tous les deux ans au plus loin.
Est-ce que vous diriez par exemple, docteur Brival, qu'il faut aller voir son gynécologue lorsque simplement on commence à avoir des premières relations sexuelles, lorsqu'on commence à avoir une vie amoureuse qui passe par des relations physiques?
Ça me paraît important, pas nécessairement obligatoire, mais important, parce que surtout quand on a affaire à un professionnel d'écoute et de compétences, pour justement refaire le point sur ces problématiques, ces difficultés et trouver une oreille attentive pour répondre à toutes les questions qu'on n'ose pas se poser. Je crois que cette relation extrêmement intime doit ouvrir toutes les portes et une femme doit pouvoir se sentir à l'aise dans une consultation gynéco pour aborder notamment des questions autour de la sexualité, du plaisir, les questions autour de la contraception et de la relation à l'autre, hein, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme. C'est très important d'avoir une consultation qui est plus autour de l'écoute que de l'agir à proprement parler.
Alors, votre guide commence par une leçon d'anatomie, se conclut par des informations pour combattre des idées reçues, on va même dire des idées des fausses au sujet de la contraception. Est-ce que ça veut dire, docteur Marie-Laure Brival, que cette santé gynécologique, eh bien, elle reste encore entourée non seulement d'inconnus, mais aussi de fausses croyances?
Tout à fait, elle reste difficilement compréhensible par les femmes, ce qui est complètement paradoxal. Il faut dire que ça a été longtemps les affaires gynécologiques, une affaire de femmes. Les médecins s'y sont intéressés assez tardivement en tant que spécialité. Et une fois qu'ils s'y sont intéressés, ils se sont appropriés effectivement toute la connaissance dans ce domaine. Je crois qu'il est temps, et c'est un petit peu le but de ce guide, que les femmes puissent se réapproprier cette histoire qui leur est propre, puisqu'il y a des pathologies certes, mais il y a surtout un fonctionnement à connaître et à adapter son mode de vie, à adapter ses comportements à ses sensations qu'on devrait pouvoir expliquer. Malheureusement, et je crois que on a de moins en moins de temps à consacrer à cette écoute et à ce partage du savoir dans le cadre de notre métier, et il serait temps de penser à des structures qui s'intéresseraient justement spécifiquement à la santé des femmes, qu'elles soient malades, mais surtout en bonne santé, pour qu'elles puissent être autonomes dans cette démarche-là.
Alors, une première auditrice, ce sera dans quelques secondes. Juste avant, docteur Marie-Laure Brival, une question au sujet de la fameuse consultation gynécologique, sur son déroulement, mais aussi sur certains gestes, et on peut le dire, un certain instrument qui fait encore peur à un certain nombre de femmes. Il y a la posture qui est demandée lorsqu'on va être examiné, pour parler crûment, écarter les jambes, hein, tout simplement, les étriers qui peuvent faire peur aussi, et puis ce spéculum qui, quand on le voit arriver, ne fait pas toujours sourire. Tout ça, il faut rassurer les femmes à ce sujet.
Oui, c'est très important de rassurer les femmes, cette consultation. Je crois que parce que, en premier lieu, elle touche à l'intime. Effectivement, vous avez dit, on écarte les jambes, on montre une partie que personne d'autre que soi-même ou son partenaire. Son partenaire a accès à cette zone, et d'aller exposer cette zone face à un inconnu, je crois que c'est pas du tout pareil qu'une consultation pour examiner le cœur ou examiner d'autres parties du corps. Donc déjà là, on est sur quelque chose qui concentre beaucoup de peur. Parce que c'est une zone particulière et c'est une zone intime, c'est la zone du plaisir, c'est la zone de la transmission de la vie. Enfin, il y a pas plus sacré comme zone. Donc, le professionnel doit se positionner de façon très claire et très douce et très attentive à la femme en elle-même dans l'approche de ce corps et de l'approche de cette zone-là. Et puis, dédramatiser la consultation. Je pense que tant qu'on continuera à être dans une certaine forme de brutalité dans la pose du spéculum, dans le toucher vaginal ou simplement d'une façon globale l'approche du corps d'une femme, ne serait-ce que dans le toucher ou dans le regard, tout ce qu'on peut sentir à travers cette approche par le professionnel peut mettre très mal à l'aise les femmes. Donc c'est un tout, je crois, dès que nous recevons, enfin en tout cas c'est un peu ce que j'essaie de mettre en pratique, c'est que dès que j'ouvre la porte et que je fais rentrer une femme dans ma consultation, mon objectif unique, c'est d'une part d'être totalement consacré à elle, mais avant tout de la mettre à l'aise, lui dire que là, je suis là pour elle, je suis là pour l'écouter et je suis là pour approcher son corps si elle le souhaite.
Confiance absolue, docteur Marie-Laure Brival. On va tout de suite donner la parole aux auditrices de l'émission et peut-être aussi à quelques auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Une première auditrice qui nous appelle de République démocratique du Congo, précisément de la ville de Matadi, c'est Judith. Bonjour Judith.
Allô, bonjour, bonjour docteur Marie-Laure.
On vous écoute Judith.
Bonjour.
Voilà, oui bonjour docteur, je m'appelle Judith, j'ai 33 ans et ma question est la suivante. Ça fait une année, j'ai subi une césarienne et juste après le retour des couches, j'ai commencé à sentir des dysménorrhées qui deviennent de plus en plus insupportables. Et parfois, j'ai des douleurs au niveau de mon appareil génital sous forme de crampes au niveau du vagin. Et aussi, avant l'ovulation, j'ai des très fortes douleurs qui parfois demandent même que je puisse prendre un analgésique. Et juste après l'ovulation, j'ai pu aussi avoir un peu des douleurs. Et parfois aussi, j'ai des sécheresses vaginales. Donc, je voulais savoir, c'est normal après une césarienne ou... C'est pas normal.
Docteur Brival, Judith qui s'interroge sur le lien justement entre cet accouchement par césarienne et ces fortes douleurs. Vous avez des éléments de réponse?
Oui, bien sûr. Il est difficile comme ça sans plus d'informations d'ordre médical. Généralement, une césarienne n'est pas associée à distance, à plus d'un an, à des douleurs telles que vous les décrivez. J'ai l'impression, à vous entendre, que ces douleurs ovulatoires et post-ovulatoires font partie, chez certaines femmes, de la physiologie. C'est-à-dire que l'ovulation consistant à l'éclatement d'un gros follicule rempli d'eau au niveau de l'ovaire, cette rupture du follicule peut être douloureuse et cette douleur peut durer 24-48 heures. Ensuite, le liquide qui va stagner dans le fond de la cavité péritonéale peut être aussi source d'irritation et donner dans toute la deuxième partie du cycle des douleurs chez certaines femmes. Donc voilà, entre autres, un des exemples de partage du savoir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait d'où viennent les douleurs, qui sont passagères et uniquement liées à l'ovulation, et qu'on peut assimiler à une douleur physiologique, on les supporte mieux. S'agissant de votre césarienne et des douleurs qui pourraient être liées, les seules raisons qui pourraient faire que les suites de cette césarienne soient douloureuses, c'est qu'il y ait eu une greffe endométriosique sur la cicatrice utérine. En tout cas, on pourrait imaginer que...
Pour parler simplement, je m'excuse de vous interrompre, des cellules de l'endomètre donc qui se seraient déplacées et qui provoqueraient ces douleurs.
Tout à fait, la césarienne, c'est-à-dire effectivement, peut être une des causes de greffe de cellules de l'endomètre qui est donc à l'intérieur de l'utérus, dans la cicatrice, sur la cicatrice, et peut être cause de douleurs autour des règles, avant et après, surtout les règles. Donc... D'après ce que vous décrivez, il me semble que ces douleurs ne sont pas liées à cette éventualité post-césarienne. Si tant est que vos douleurs ne seraient plus tout à fait liées à l'ovulation ou à la post-ovulation, il peut être intéressant de faire quelques examens complémentaires comme une échographie ou une IRM pour voir s'il n'y a pas une greffe de ce tissu endométrial sur la cicatrice qui pourrait expliquer des douleurs persistantes.
Judith, est-ce que vous avez la possibilité de faire une échographie?
Oui, j'ai déjà réalisé 2 échographies. J'étais allée voir le gynécologue. Il a réalisé l'échographie, mais bon, comme j'ai suivi les docteurs, on vient de dire, la communication entre le malade et le docteur est très importante parce que ce dernier m'avait dit que, bon, je ne dois pas m'inquiéter, il n'y a rien, mais je continue d'avoir mal. Et j'ai réalisé une deuxième échographie qui s'est avérée normale. Mon état gynécologique est normal.
Alors, parfois, l'échographie ne suffit pas à diagnostiquer des lésions endométriosiques. C'est vraiment qu'une hypothèse hein, que j'émets là. Et on peut faire d'autres examens comme une IRM pour voir d'un peu plus près. Mais il est fort probable que ça ne soit pas du tout ça et que vous ayez des douleurs d'ovulation spécifiques et qui se manifesteraient comme cela. Avant votre césarienne, vous n'aviez jamais de douleurs autour de l'ovulation?
Bien sûr, j'avais des douleurs et aussi j'ai subi 2 fois une cystectomie ovarienne. Bon, je me posais la question, peut-être que c'est lié à cette cystectomie, mais malheureusement, c'est arrivé après la césarienne.
Mais ces douleurs, vous les sentiez avant, donc ce n'est pas forcément lié à l'épisode de la césarienne.
Oui, mais bien que maintenant, là, ça a augmenté. Avant, c'était pas pareil. C'était un peu inaperçu. Mais maintenant, là, quand j'ai des douleurs comme ça, j'ai même du mal à aller travailler.
Voilà. Bah, écoutez, oui, je suis pas étonnée qu'elle puisse être augmentée, aggravée par la césarienne, parce que vous avez les phénomènes de cicatrisation, éventuellement d'adhérence suite à l'intervention chirurgicale elle-même. Et donc, il peut aggraver les sensations douloureuses. Mais vous voyez, je pense que c'est important de mettre en lien avec ce qui se passait avant. Et donc, je pense qu'on est plus sur des douleurs du fonctionnement ovarien, c'est-à-dire pré-ovulation, ovulation, post-ovulation, qui peut être douloureuse chez certaines femmes. Et pour cela, il y a certains traitements qu'on peut mettre en place et qui peuvent soulager.
Voilà Judith pour ces conseils du docteur Marie-Laure Brival. Et très bonne journée pour vous à Matadi. On va rejoindre le Cameroun tout de suite. Yaoundé, où on retrouve Lounmila. Bonjour Lounmila.
Bonjour madame, bonjour à toute l'équipe de Haute Santé.
On vous écoute Ludmila.
Oui, je suis Ludmila, âgée de 29 ans, mère d'un enfant de 9 ans, résidente à Yaoundé. Ma préoccupation est celle-ci. Je souffre depuis plus de 6 mois avec des maux de ventre, avant et après mes menstruations, au niveau de l'abdomen, de la ventre, et cela m'inquiète plus. J'aimerais savoir si cela n'aura pas de répercussions sur ma fertilité plus tard. Quelle solution pourriez-vous nous donner?
Ludmila, est-ce que vous avez un projet d'enfant? Est-ce que ça veut dire que vous avez des rapports non protégés, on peut dire, entre guillemets, qui n'ont pas abouti pour l'instant à un bébé?
J'ai des projets, en revanche.
Vous interrogez sur votre fertilité, mais pour l'instant, vous n'avez aucun élément qui va dans le sens que vous ayez un problème éventuel de fertilité.
Non.
Ce sont des questions que vous vous posez. Liées aux douleurs des règles, tout simplement. C'est bien ça, docteur Brival?
Oui, je crois que... donc, si je vois votre garçon, votre enfant, il a 9 ans.
Oui, il a bien 9 ans.
9 ans. Et c'est pendant ces notes, donc vous l'avez eu à 20 ans, et depuis vous n'émettez pas l'idée d'avoir un deuxième enfant, au moins une deuxième grossesse?
Non, depuis non.
Voilà.
Mais
donc,
c'est un projet, en fait.
Je crois que c'est très difficile, hein, il y a les crânes que vous avez, mais je crois que les douleurs en elles-mêmes ne peuvent constituer un risque de d'infertilité. Ça, c'est sûr. Je sais pas si vous pensiez encore une fois là à l'endométriose, puisque dès qu'il y a des douleurs, on peut penser à cela. Il y a aucune raison, a priori, que vous inquiétiez. Vous avez une première grossesse qui est arrivée simplement. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas une seconde fois. Donc, je crois que la première des choses à faire, c'est d'avoir envie, un désir de grossesse, de mettre en œuvre ce qu'il faut pour obtenir cette grossesse. Et effectivement, si dans l'année qui suit ce désir et la mise en œuvre d'une sexualité adaptée pour cela, vous n'avez toujours pas de grossesse, pourrait commencer à se poser la question. Mais a priori, comme ça, c'est peut-être vous mettre en situation réelle de difficulté, mais là qui serait d'ordre psychologique, hein, parce que vous êtes inquiète pour quelque chose qui n'existe pas encore, en tout cas qui n'a pas fait la preuve de son existence.
Ok, j'ai compris, madame.
Vous rassurez, madame. Vous rassurez Ludmila, voilà.
Totalement, totalement.
Et puis après, si effectivement, si le temps passe et que ce projet d'enfant n'aboutit pas, elle est bien sûr consultée pour savoir s'il y a un problème physiologique qui explique ce problème qui, pour l'instant, n'est pas là.
N'est pas là, et vous êtes jeune, 29 ans, il devrait y avoir aucun problème. Donc essayez, si vous êtes dans une situation, de vouloir un deuxième enfant. Mais il n'y a pas de raison que les douleurs soient à l'origine d'une infertilité, je vous rassure totalement.
Voilà Ludmila, très bonne journée pour vous à Yaoundé. On va rejoindre Brazzaville, le Congo, où on a en ligne Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
On vous écoute Stéphanie.
Je dis là.
Oui, on vous écoute.
J'ai 28 ans d'âge et je suis diabétique de type 1 depuis 2009. Et j'ai un problème de la ménorrhée primaire. Et actuellement, avec le diabète que j'ai, je n'ai pas de prise en charge. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver un traitement.
Alors, docteur Marie-Laure Brival, je rappelle, parce que la ligne n'était pas excellente. Stéphanie, diabétique de type 1, souffre d'aménorrhée primaire. Déjà, pour nos auditeurs et nos auditrices, expliquez ce que c'est, l'aménorrhée primaire.
Donc, l'aménorrhée primaire, c'est l'absence d'arrivée des règles au moment où elles devraient arriver, c'est-à-dire autour de la puberté, entre 12 ans et 14-15 ans.
Et il y a des liens, justement, entre cette non-survenue des règles et un diabète ?
Eh bien oui, si c'est un diabète de type 1 qui a commencé tôt dans l'enfance, je ne sais pas depuis quand, enfin le diagnostic de diabète juvénile, c'est ce qu'on appelait le diabète juvénile, le diagnostic a été fait, mais ça peut interférer bien sûr.
Stéphanie, est-ce que vous êtes prise en charge par un diabétologue ou quelqu'un qui puisse faire le lien, justement, ou un endocrinologue qui puisse faire le lien entre votre cycle et, bien sûr, le contrôle de votre maladie chronique ?
Jusqu'à là, il n'y a pas encore de temps pour moi, donc je suis en attente.
Vous êtes en attente pour une consultation.
Mais alors, oui. Le diagnostic a pourtant été fait de diabète de type 1.
Oui.
Vous êtes sous insuline ?
Ben oui.
Forcément ?
Je suis sous insuline.
Et c'est un généraliste qui a posé ce diagnostic après une prise de sang ?
Non, c'est un diabétologue.
La ligne est vraiment très mauvaise. C'est difficile de vous comprendre, Stéphanie. La chose que je pense qu'on peut vous dire avec le docteur Brival, c'est vraiment d'aller voir un médecin spécialiste qui pourra vous parler de la situation, des choses à faire, à envisager pour ce genre de situation.
Peut-être, si on peut essayer une dernière fois, parce qu'on entend effectivement très mal. Que souhaitez-vous, Stéphanie, d'avoir des cycles qui reprennent, puisque qui qui s'établissent. Vous souhaitez, vous avez un désir de grossesse. Quelle est la problématique? Vous dites que vous avez eu des examens, des colposcopies.
Ces examens n'ont rien donné.
Ben, j'ai fait des examens, j'ai fait les examens des hormones, les RH. Pour le 4 mois, c'est là où il y a le problème, puisque mon médecin traitant n'a pas encore trouvé un traitement pour moi, mieux que j'ai. Donc, je préfère que je
On est désolé, Stéphanie. La qualité de la ligne est tellement mauvaise, on n'entend pas bien vos explications. Ce que j'ai compris a priori, c'est que votre médecin n'a pas trouvé le traitement adapté à votre situation. Mais je suis navrée de pas pouvoir vous donner davantage de réponses parce qu'on n'entend pas bien vos explications et les précisions que vous nous donnez. Désolé hein, de pas pouvoir avancer davantage avec vous et bonne journée à Brazzaville au Congo. On espère que la ligne sera meilleure avec Khadijatou qu'on retrouve de Guinée à Conakry. Bonjour Khadijatou.
Oui, bonjour.
On vous écoute Khadijatou.
Bon, j'ai un problème de règles. Ça fait presque 2 ans, je ne vois pas mes règles. La première année, je suis allée chez un gynécologue, ils m'ont donné 3 piqûres, Synergon. J'ai pris ça, j'ai vu mes règles. Après le mois suivant, j'ai plus vu. Je suis allée, on m'a redonné les mêmes piqûres encore. J'ai pris, mais ça n'allait pas. J'avais un problème d'excision aussi, donc j'ai subi une opération. On a suivi ça. On m'avait dit de faire ça avant le mariage, parce que sinon je ne pouvais pas avoir de rapport avec mon mari. Et là, en même temps, je suivais le traitement pour les règles.
Excusez-moi, Khadijatou, vous avez quel âge?
J'ai 39 ans.
Et quand vous dites que vous avez subi une opération, cette opération était liée à votre excision, c'est ça?
Oui. Il paraîtrait que si jamais je devais avoir des rapports avec mon mari, je ne pouvais pas en avoir parce que c'était fermé.
Vous étiez infibulée, c'est ça?
Oui.
Donc
j'ai dû subir l'opération. En même temps, je suivais le problème pour les règles. Mais on m'a fait l'opération parce que je devais me marier en septembre. Donc, il m'a fait l'opération. En même temps, après, il m'a donné les piqûres. J'ai pris les 3 piqûres encore, mais ça n'allait pas. Maintenant, après le mariage, toujours, j'avais des problèmes avec mon mari. On est allé le voir. Il a dit que pour un début, ça ne pouvait pas aller entre nous. Pour le problème de règles aussi, d'attendre un peu. Mais comme je voyais qu'il ne s'occupait pas trop bien, j'habite quelque part, je suis allée tout près chez un gynécologue dans ces jours-ci. Lui aussi, il m'a fait une échographie. Il m'a dit que les ovules sont presque pas visibles. Que pour les règles aussi, il m'a donné des comprimés, 10 comprimés pour 5 jours. J'ai pris ça. Le mois même, j'ai vu. Le mois suivant, j'ai pas vu. Maintenant, dans ces jours, je suis allée encore. Ce mois, il m'a donné les 10 comprimés encore de reprendre. Donc, j'attends encore.
Donc, des règles avec des épisodes d'absence, des traitements, des examens, ce passage très, très difficile de l'opération avant le mariage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Khadijatou, docteur Brival?
Donc, manifestement, je pense qu'à travers toute l'histoire que je viens d'entendre, donc Khadijatou est mariée récemment, a dû subir une intervention suite à une infibulation pour le mariage et, à l'évidence, n'a pas d'enfant. C'est bien ça, Khadijatou?
Non, pas d'enfant.
Voilà. Et donc, avant votre mariage, vos règles étaient régulières?
Non, avant le mariage, il y avait presque 1 an que je n'avais pas vu mes règles.
Vous n'avez pas vu vos règles depuis seulement 2 ans?
Oui.
Voilà. Bon, donc...
Il y a le problème d'âge aussi, j'ai presque 39
alors,
ans en Afrique.
Donc enfin, vous aviez des règles et depuis 2 ans, elles ne viennent pas et on n'arrive pas à remettre les cycles en place.
Oui, oui.
C'est ça. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser. C'est toujours difficile on n'a pas un diagnostic univoque, là. Mais il est important. Vous avez fait une échographie. On vous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'ovules. Je pense qu'on peut pas s'arrêter sur juste l'aspect vu en échographie. Il faudra faire des dosages hormonaux s'il est possible pour vous d'accéder à ce type d'examen pour justement juger. Est-ce que les ovaires fonctionnent? Et puis, à partir de ces dosages hormonaux, progestérone, FSH, LH, estradiol, est-ce que vous avez eu ces examens?
Non, je n'ai fait que l'échographie.
Vous avez fait que l'échographie. Donc vraiment, sur la fonction ovarienne, il faut avoir ces examens. Et ce n'est qu'à part avec ces examens qu'on va pouvoir vous dire s'il y a un fonctionnement de l'ovaire ou si, de façon... À mon avis, c'est vraiment le dernier diagnostic qu'on pourrait évoquer, c'est-à-dire le fait d'être en absence de règles, c'est qu'il y ait une insuffisance ovarienne précoce, mais l'échographie ne suffit pas à affirmer ce diagnostic. Donc, moi, je ne vous inquiéterai pas plus que cela sur la possibilité d'avoir des enfants. Je pense que tout reste ouvert. Il faut juste comprendre pourquoi depuis 2 ans, vous n'avez pas vos règles. Et ça passe forcément... par un dosage des hormones qui stimulent les ovaires et les hormones produites par les ovaires. Mmh. Et avec ces examens, on va pouvoir dire si on est effectivement sur une atteinte de la fonction des ovaires ou si c'est juste un passage de vie. Ça peut arriver que des femmes aient des absences de règles et que les choses reviennent spontanément.
Surtout quand il y a des grands événements comme ça dans l'existence.
Tout à fait. Et ce que vous avez vécu et l'intervention, ce n'est pas rien sur un plan psychologique. Et ce cycle ovarien est très, très sensible à votre état psychique. Donc, je
faire
suis plutôt
examens.
Rassurante, vraiment totalement. À 39 ans, on se retrouve pas dans l'impossibilité d'avoir des enfants.
Voilà, Khadija Tou, ce conseil du docteur Brival, faire ses examens complémentaires. On va prendre un dernier auditeur, c'est Roland qui est en ligne du Bénin, de Cotonou précisément. Bonjour Roland, bonjour, on vous écoute.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute.
Ma préoccupation, elle est celle-ci. Ma femme, elle est enceinte, ça fait 3 mois déjà.
Mm-hmm.
Et elle suit des consultations prénatales. Mm-hmm. Et on lui a demandé des examens sur la rubéole et la toxoplasmo.
Oui.
Alors, quand on a pris les résultats, tout est positif. Les 2 examens sont positifs. Alors, moi, j'ai paniqué.
Mm-hmm.
Je suis allé sur le net pour m'instruire sur la positivité de ces examens. Alors, j'ai lu qu'elle a été en contact peut-être avec le chat, avec des animaux, ou bien les fous.
Donc, votre inquiétude, c'est est-ce que votre femme, pendant sa grossesse, rencontre un quelconque danger parce qu'elle est positive à la rubéole et à la toxoplasmose? C'est bien ça?
Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Je suis très inquiète.
Docteur Brival, je pense que vous allez tout de suite... Alors, Roland, je vous arrête parce que... Je sais un petit peu, pas grand-chose en médecine, mais je sais que le docteur Brival va vous rassurer.
Ah oui, là, totalement.
Parce que c'est une bonne nouvelle qu'elle soit positive.
C'est une très, très bonne nouvelle qu'elle soit positive. Donc, vous n'avez aucune raison de paniquer. Ça veut simplement dire, ce sont deux maladies, une virale, l'autre parasitaire. La rubéole est virale, la toxoplasmose est parasitaire. Mais ça fait partie de ces maladies qu'on attrape dans l'enfance et qui nous immunise, c'est-à-dire nous protège pour toute la vie. Donc, les résultats positifs de votre femme signent simplement que quand elle était plus jeune, 8 ans, 9 ans, enfin dans son enfance, elle a rencontré le virus de la rubéole, elle a rencontré le parasite qui donne la toxoplasmose, qu'elle a développé ces 2 maladies, des anticorps ont été fabriqués qui la protègent définitivement contre ces 2 maladies. Donc, elle ne peut pas les rattraper pendant la grossesse et votre enfant ne risque rien et d'ailleurs, il est plus que protégé qu'un autre enfant puisque ses anticorps de la maman vont pâcher chez le bébé et le protéger dans les premiers mois de vie. Donc, dans tous les sens, C'est plutôt une excellente nouvelle.
C'est un des rares tests positifs qui est vraiment positif. Roland, en fait, le problème, ça aurait été si ce test avait plutôt été négatif.
Absolument.
Et même là encore, ce n'est pas non plus très grave. Il y a des contournements pour éviter de contracter, par exemple, la toxoplasmose au niveau de l'hygiène quotidienne, docteur Brival.
Voilà. Donc, c'est, si vous voulez, donc, quand on n'est pas positif, donc on n'est pas immunisé, donc on n'a pas à contracter la maladie, et donc on est sensible à la maladie. Donc, il y a risque pour le bébé, pour la rubéole, les trois premiers mois. Mais ça ne vous concerne pas. Et pour la toxoplasmose, on peut effectivement essayer de prévenir l'ingestion du parasite en prenant un certain nombre de précautions alimentaires, comme vous avez pu le voir sur Internet en allant consulter. Quoi qu'il en soit, tout cela ne concerne pas votre femme ni votre bébé.
Et puis, Roland, ce qu'on peut vous dire, et je pense que le docteur Brival ne le démentira pas, sur Internet, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire, surtout quand on attend un bébé et qu'on peut facilement s'inquiéter.
Tout à fait, oui.
Voilà, okay, Roland.
Merci beaucoup.
Ben, vous êtes rassuré. Et puis, bonne continuation pour vous et puis surtout pour votre épouse et le bébé à venir.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Très bonne journée à vous à Cotonou. Une question. Beaucoup de questions sur les menstruations de la part de nos auditeurs. Il y a cet auditeur notamment qui s'interroge sur, on va dire, la période de fécondité. C'est Eric qui nous a laissé un message Facebook. Il vit au Tchad. Quelle est la probabilité pour une femme de tomber enceinte si elle a un rapport sexuel non protégé la veille de ses règles?
La probabilité est proche de zéro si c'est la question la veille de ses règles. Encore faut-il être sûr qu'on est à la veille des règles. En tout cas, sauf si on a des cycles parfaitement stables et parfaitement réguliers au jour près, il y a peu de femmes qui savent exactement quand les règles vont arriver. Et donc, la veille des règles est toujours une question aléatoire. Mais s'il s'agit bien de la veille des règles, il n'y a pas de risque de grossesse à la veille des règles, dans la mesure où là, on est sur la fin d'une préparation à accepter une grossesse, donc une fin de cycle, et en même temps sur un début de cycle. Les deux conjonctures font que la possibilité d'une grossesse avec cette précision-là est nulle, la veille des règles.
Docteur Marie-Laure Brival, merci pour cette réponse. Le temps nous presse, mais malgré tout, on va partir pour la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Difficile de joindre Kinshasa ce matin. On vous retrouve quand même, docteur Joseph Kangoudiambaya. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien, directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine à Kinshasa. Docteur Kangoudiambaya, est-ce que la plupart des femmes en RDC peuvent consulter un gynécologue lorsqu'elles en ressentent le besoin?
Merci pour la question, madame. La plupart des femmes, généralement dans les centres urbains, dans les grandes agglomérations, ont facilement accès aux gynécologues chaque fois qu'ils peuvent en avoir et qu'elles peuvent en avoir besoin. Néanmoins, dans les milieux ruraux, il est très difficile d'y accéder.
Et dans ces cas-là, les femmes, docteur Kangoudiambaya, se retournent vers quel spécialiste, vers quel praticien?
Non, elles se retournent généralement sur le médecin généraliste. Parfois même sur les infirmiers, en cas d'absence de médecins spécialistes, particulièrement en gynécologie.
Si on parle de prévention en matière de santé sexuelle et reproductive en RDC aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner?
Par rapport à la prévention, j'aimerais souligner d'abord que l'État congolais est bien structuré parce qu'il y a tout un programme qui s'occupe de la prévention et de la sensibilisation en matière de santé et de santé de la reproduction en général et de santé sexuelle. Les conseils que nous pouvons donner aux femmes, généralement même mieux aux parents, c'est d'entamer déjà une conversation, un contact avec les jeunes enfants, les jeunes filles, pour qu'elle puisse déjà comprendre c'est quoi la sexualité, prendre des mesures d'encadrement, le sensibiliser par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH, et le VIH, le sensibiliser par rapport aux grossesses précoces qui sont un véritable problème dans notre environnement de manière générale par moment.
Merci beaucoup, docteur Kangoudiam Baya. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Hélas, le temps nous presse un petit peu. Je me retourne vers vous, docteur Marie-Laure Brival. Est-ce que certaines femmes, en fonction de leur parcours de vie, de leur âge, nécessitent un suivi gynécologique plus régulier, plus fréquent ?
Oui, tout à fait. Certaines femmes nécessitent des suivis plus serrés, notamment en regard de certains antécédents, soit personnels, soit familiaux, notamment en matière cancérologique. Hein. Je crois que il y a un facteur génétique dans certains cancers. Certains cancers du sein ont un déterminisme génétique. Donc, on va tenir compte d'un certain nombre de ces antécédents pour mettre en place un suivi plus ou moins important, plus ou moins rapproché ou distancié en fonction des antécédents. Certaines femmes sont plus à risque de cancer du col de l'utérus pour d'autres raisons que celles qui sont que les raisons génétiques, mais des raisons infectieuses, donc si elles sont porteuses du papillomavirus. Donc oui, il y a un certain nombre de femmes qui sont plus à risque que d'autres et qui nécessitent un suivi plus serré et plus régulier.
Merci beaucoup, docteur Marie-Laure Brival, d'avoir répondu à toutes les questions des auditrices de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne, chef de service à la maternité des Lilas en région parisienne. Et pour en savoir plus, votre ouvrage, hein, on cite son titre à nouveau, « Mon guide gynéco pour les nuls », publié aux éditions First.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et on reparle de l'épidémie de virus Ebola en République démocratique du Congo. En milieu de semaine, l'Organisation mondiale de la santé jugeait le moment décisif.
Oui Caroline, les toutes prochaines semaines seront décisives pour savoir si l'épidémie peut ou non se propager rapidement et s'étendre aux zones urbaines. L'épidémie qui s'est déclarée officiellement le 8 mai, à la limite du Congo-Brazzaville, à Bikoro, avant d'atteindre Mbandaka, cette grande ville qui compte plus d'un million d'habitants et qui est située sur le fleuve Congo.
Alors le dernier bilan de l'OMS faisait état ce matin de 27 morts sur 58 cas recensés, avec 7 cas enregistrés justement à Mbandaka.
Et depuis lundi, sur place, les premières vaccinations. Pour l'occasion, une cérémonie officielle avait été organisée et cette première phase de la vaccination concernait exclusivement le personnel de la santé en contact direct avec des cas confirmés. C'est un reportage à Mbandaka de Patient Ligotti.
Elle est guinéenne, elle est parmi les experts de l'OMS qui s'écharge de cette première phase de la campagne de vaccination. Devant elle, Dr Guillaume Ngoï Mwamba, directeur de programme élargi de vaccination. Il est le premier Congolais à être vacciné contre Ebola.
Une journée symbolique pour la République démocratique du Congo. C'est la première fois que le vaccin contre le virus Ebola est administré dans notre pays.
Pour contenir l'épidémie, ce vaccin est considéré comme un pilier important de l'arsenal qui se déploie actuellement dans la province de l'Équateur. Dr Pierre Formanti, coordonnateur des activités des luttes contre l'épidémie d'Ebola pour l'OMS.
Et un vaccin comme celui-ci peut nous permettre de travailler plus vite pour prévenir la transmission d'Ebola de personne à personne et casser les chaînes de transmission.
Pour les ministres de la Santé, Oli Ilunga, les vaccins ne devraient pas faire oublier d'autres mesures des luttes contre les virus.
Je crois que c'est un pilier additionnel à toutes les autres mesures d'hygiène, à toutes les mesures de lavement des mains, à toutes les mesures de d'enterrement sécurisé, à toutes les mesures de surveillance des cas contacts et des contacts des contacts. La vaccination, c'est vraiment un pilier en plus, justement, pour contrôler l'épidémie à maladie virusique.
Au total, une dizaine d'agents de santé ont été vaccinés ce lundi. Patient Ligodi, Mbandaka, RFI.
Et précisément, ce vaccin expérimental et cette campagne ciblée sont critiqués par l'organisation Médecins sans frontières.
Ce vaccin, l'OMS le juge très efficace et il devrait être injecté à 10 000 personnes d'ici à la fin du mois de juin, Caroline. Mais pour MSF, ce vaccin expérimental contre Ebola provoque une certaine confusion avec le risque de voir des malades refuser l'hospitalisation. Pour l'organisation humanitaire, le vaccin est un outil en plus, mais le plus important, c'est de continuer à informer la population sur les actes d'hygiène de base qui permettent d'éviter la propagation du virus.
Alors, autre continent, autre virus, dans le sud de l'Inde, c'est le virus Nipah qui est à l'origine d'une dizaine de décès ce mois-ci.
Une centaine d'autres personnes ont été placées en quarantaine dans le Kerala. La maladie est mortelle dans 70% des cas, une maladie contre laquelle aucun vaccin n'existe. Elle peut provoquer des encéphalites mortelles et des comas. C'est une chauve-souris frugivore qui est en est le vecteur et le virus Nipah pas se contracte en consommant les aliments infectés par l'animal.
L'Élysée annonce une conférence humanitaire sur le Yémen pour la fin du mois de juin à Paris.
Annonce conjointe du président français Emmanuel Macron et du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman après un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. Selon l'OMS, ce conflit a fait près de 10 000 morts et plus de 55 000 blessés au Yémen. Le choléra a aussi tué 2 200 civils et des millions de personnes sont au bord de la famine. L'Arabie Saoudite est partie prenante de ce conflit. La France a été pointée du doigt compte tenu des contrats d'armement qui lient Paris et Riyad.
Aux États-Unis, le Congrès américain approuve une loi controversée en matière de santé.
C'est un texte qui va permettre à des malades en phase terminale d'essayer des traitements expérimentaux non autorisés. Cette loi est soutenue par Donald Trump, qui devrait rapidement la promulguer. Mais pour certains élus de l'opposition démocrate, ce texte pourrait permettre à des laboratoires pharmaceutiques de contourner les autorités sanitaires américaines sans passer la première étape des tests cliniques pour vérifier la toxicité du médicament.
En France, le sort d'un médecin controversé, le professeur Henri Joyeux, entre les mains de l'ordre.
L'ordre des médecins, dont il pourrait être radié. Décision attendue dans les prochaines semaines. Le professeur Joyeux, 72 ans, retraité depuis 4 ans, a comparu devant une audience disciplinaire jeudi. En juillet 2016, il avait été radié en première instance avant de faire appel. Le Conseil lui reproche d'avoir mis en danger la santé publique en doutant ouvertement de l'intérêt de la vaccination.
Le cannabis à usage thérapeutique, le débat est lancé en France selon la ministre de la Santé.
Selon Agnès Buzyn, différentes institutions doivent faire remonter l'état des connaissances sur le sujet. Elle estime qu'il ne faut pas exclure a priori le cannabis qui, selon elle, peut être une molécule intéressante pour le traitement de certaines douleurs très invalidantes.
Et pour conclure, Juliette, cette nouvelle journée portes ouvertes pour l'assistance publique hôpitaux de Paris.
La PHP organise pour la 5e année de suite cette opération. Samedi après-midi, le public parisien peut visiter des dizaines de services qui d'habitude lui sont fermés. Maternité, véhicules d'urgence, radiothérapie robotisée, cabine de télémédecine et même des cuisines et la blanchisserie centrale de la PHP à la Pitié-Salpêtrière.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et aujourd'hui Tiffany. Et lundi, nous allons parler de la santé des femmes migrantes. Si vous voulez témoigner, si vous voulez poser une question, bien sûr, la page Facebook de l'émission et notre numéro de téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et pour réécouter l'émission podcast sur l'application Pure Radio et le site internet, bien sûr, rfi.fr, la rubrique émission. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.